Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à Kiosque Magazine. Nous sommes le mercredi 3 décembre déjà. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Jeannine Petitbois. Bonjour Jeannine.
Bonjour Dominique.
Qui va faire un petit essai un petit peu plus tard, mais qui présentera la semaine prochaine l'émission avec moi. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de... J'ai dû rédiger une liste de divorces. Et oui, ça arrive. Cancer, oui, on peut le prévenir. Kiza, la dance machine. C'est un portrait de cette jeune chanteuse. Ensuite, je vous parlerai de la génération Cendrillon dans la rubrique Beauté, vive la routine. Et enfin, 10 résolutions que l'on devrait tous prendre. J'ai dû rédiger une liste de divorces. C'est un texte par Daniel Jerkens dans le Elle du 14 novembre 2014. Lorsque Gabriel quitte Cédric, il devient fou furieux. Pour récupérer ses affaires, Gabriel doit rédiger une étrange liste. « Je n'ai jamais eu envie que notre divorce se passe bien », masséna froidement Cédric au bar du Ritz. « En me quittant, tu as détruit mon estime de moi. La seule façon de me reconstruire, c'est de te briser. Si je le pouvais, je le ferais physiquement, mais je sais que si je lève la main sur toi, j'irai en tôle. »« Pardon ? Tu envisages de me frapper ? » ai-je répondu estomaqué. « J'y ai pensé. Comme c'est impossible, je vais te détruire autrement. Financièrement, sache que tu dois près de 100 000 euros à ma famille. » Car j'ai signé de fausses reconnaissances de dette, nous impliquant tous les deux, et j'ai vidé les comptes bancaires. Professionnellement, j'ai commencé à te pourrir auprès de tes clients. Amicalement, je vais faire le ménage. Légalement, j'ai tout retiré de notre appart, et j'ai fait constater par huissier que tu avais tout emporté. Enfin, tout volé, quoi. Il m'a fallu quelques mois pour préparer les dossiers. Maintenant, c'est prêt. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour te pulvériser. Poursuivit-il en buvant son quatrième scotch. Qu'est-ce que tu veux ? Que tu repartes à poil. Si tu acceptes de renoncer à ta moitié de l'appartement et de nos biens, ce sera la preuve que tu commences à racheter l'indignité de ta conduite. Ce soir-là, je nous regardais avec désolation en me demandant comment un couple pouvait en arriver là, après 10 ans de vie commune et 6 ans de mariage. Je venais de quitter Cédric. Pourquoi ? Parce que je n'avais plus grand-chose à lui dire. Plusieurs mois de mal-être l'année précédente m'avaient amené à réaliser que j'étais malheureuse. Dans la foulée, j'avais demandé l'hospitalité à des amis de mes parents. Attachée de presse, je venais de me lancer à mon compte et avec toutes les charges, je ne pouvais plus me payer un loyer. Une valise, un sac, mon ordinateur me suffisaient. Ma plus grande richesse, c'était cette liberté retrouvée après des années pesantes. Pour Cédric, c'était un coup de tonnerre. En dépit de mes mises en garde, de mes doutes et de mes demandes, il avait toujours estimé que la seule personne qui avait un problème, c'était moi. Dès lors, je n'avais qu'à consulter pour me soigner. La séparation actée, nous nous étions revus dans un café. Nous avions échangé sur notre couple, sur nos échecs et sur nos envies. Lui disait vouloir nous donner une seconde chance, moi non. Trop d'efforts vains. 3 mois avant le rendez-vous au Ritz, nous étions convenus de réussir notre divorce à défaut d'avoir réussi notre mariage. On va régler les choses entre nous. Quand on se sera mis d'accord, on prendra un avocat pour un divorce par consentement mutuel, m'avait proposé Cédric. J'étais soulagée, heureuse de me dire que nous faisions preuve d'intelligence. L'avenir allait me prouver tout le contraire. Racheter l'indignité de ta conduite. Mon Dieu, j'avais l'impression de vivre un mauvais drame bourgeois. Son but ? Me faire retourner 10 ans en arrière à l'état d'étudiante qui était le mien quand on s'était rencontrés. Mon avocate, écumante de rage, a voulu l'attaquer au pénal pour recel, faux et usage de faux, lancer des commissions rogatoires avec perquisition à l'aube chez lui et chez ses parents pour retrouver tous les objets que j'avais prétendument volés. Mais après une nuit de réflexion, je l'ai appelé. « Maître, je vais tout lui laisser. »« Mais vous êtes folle, vous réalisez qu'on parle de plus de 400 000 dollars. Il faut lui donner une bonne leçon à votre cinglé de mari. » Peut-être, mais ma liberté vaut plus que cela. Laissez tomber l'appartement, j'en assume les conséquences. Je veux juste récupérer mes affaires personnelles. Je ne roulais clairement pas sur l'or, mais qu'importe. Quelques semaines plus tôt, j'avais fait une magnifique rencontre. J'étais amoureuse, gaie, légère. Professionnellement, les choses se mettaient en place. Les clients étaient toujours plus nombreux. Le seul hic, c'est que, comme Cédric avait vidé l'appartement de mes affaires, il ne pouvait légalement pas me les rendre, en admettant qu'il l'eût voulu, sauf à reconnaître qu'il les avait déplacées lui-même. Un vrai casse-tête juridique. Mon avocate proposa d'établir une liste détaillée de chacun de mes biens, avec toutes les justifications nécessaires. Je me suis exécutée. Mais j'avais ma fierté. Je ne demanderais que les objets qui m'appartenaient avant d'avoir rencontré Cédric. Les souvenirs de notre vie commune, sans parler des cadeaux de notre liste de mariage, je préférais ne plus les revoir. Et c'est ainsi que je me retrouvais cet été-là en vacances chez des amis, à lister les petites choses de ma vie au champ des grillons. Presse citron, en juin 2000, située dans la cuisine sous la plaque de cuisson. Porte-manteau en rotin, offert en 98 par mes parents pour meubler ma chambre de jeune fille, déplacée dans la propriété de ma belle-famille dans la Creuse. Bottes en caoutchouc, taille 39, rangées sous l'escalier principal dans la maison de la Creuse, etc. Une semaine plus tard, j'avais bouclé cette liste de divorces. De mémoire, j'avais révisé mentalement l'intégralité de notre appartement. À cette occasion, des centaines de souvenirs sont remontés, bons et moins bons, avec Cédric, mais aussi avec mes parents, mes amis, mes anciens amoureux. Un bilan de vie doublé d'un inventaire listant aussi bien mon wok que mes vêtements, mes livres que mes tableaux, mes bijoux que mes CD. Le document final faisait une soixantaine de pages. Il fut officiellement transmis à l'avocate de Cédric qui avoua alors n'avoir jamais eu à gérer un dossier aussi simple avec autant de complications. Cet automne-là, je fus enfin autorisée à venir récupérer mes affaires. Cédric avait tout rassemblé dans deux pièces, avait fermé les portes à clé et avait demandé à sa mère de me surveiller pendant que je prenais mes cartons. Un an plus tard, Cédric et moi, nous nous sommes revus au palais de justice. Dans le couloir, il a voulu me claquer la bise comme si de rien n'était, avant de s'apercevoir que j'étais enceinte de plus de 6 mois. Comme il l'avait exigé, la fameuse liste était agrafée au jugement de divorce, ce qui nous a valu un commentaire pour le moins ironique du juge lorsqu'il l'a feuilletée. C'est la première fois que je prononce un divorce dans lequel le destin du presse-aille est évoqué. Cédric a alors baissé les yeux. Nos regards ne nous sont plus jamais croisés. Cancer, on peut le prévenir. Première cause de mortalité dans la plupart des pays industrialisés, le cancer fait peur. Pourtant, la majorité des décès qui y sont reliés pourraient être évités si nous modifions notre mode de vie. Nous avons rencontré le docteur Richard Béliveau, auteur de « Prévenir le cancer, comment réduire les risques », un nouveau livre qui alimentera nos conversations. C'est par Lucie Turgeon dans le Moi et compagnie de décembre 2014. Les gens voient le cancer comme une fatalité contre laquelle ils ne peuvent rien. Or, il est possible de prévenir cette maladie, assure le docteur en biochimie Richard Béliveau. Grâce aux recherches médicales des dernières années, on sait maintenant que la majorité des cancers ne sont ni dus au hasard, ni à une prédétermination génétique, ni uniquement au vieillissement. Ils sont plutôt causés en grande partie par nos habitudes de vie. En effet, quantité d'études ont prouvé qu'il existe un lien direct entre le tabagisme, le surpoids, la sédentarité, l'alimentation, l'exposition aux rayons ultraviolets, le manque de sommeil et la progression du cancer. Cela signifie que près des 3/4 des cas de cancer qui touchent actuellement les populations pourraient être prévenus simplement en modifiant nos habitudes quotidiennes. Pour prévenir la majorité des cancers, il nous suffirait donc d'apporter quelques changements à notre mode de vie. Mais quels changements faut-il privilégier au juste ? Grâce au travail exceptionnel des agences de santé publique, il est possible de résumer l'ensemble des connaissances actuelles sur la prévention du cancer sous forme de 10 grandes recommandations, explique le docteur Béliveau. Elles sont le résultat d'une évaluation rigoureuse de plusieurs centaines de milliers d'études menées par les plus grands experts de la recherche sur le cancer et représentent, à ce titre, l'une des réalisations les plus importantes de la recherche en oncologie des dernières décennies. Ainsi, plutôt que d'espérer passivement être épargné par cette terrible maladie, il est possible d'adopter une approche combative qui peut réduire les risques de développer un cancer. Les études montrent que si une femme applique 4 ou 5 de ces recommandations, elle réduit, par exemple, de 60% ses risques d'avoir le cancer du sein, souligne le docteur Béliveau. Adopter une approche préventive face au cancer est d'autant plus importante que nous sommes tous porteurs de tumeurs latentes. En effet, toutes les personnes, même celles qui sont en bonne santé, ont des tumeurs microscopiques. Par exemple, 50% des femmes dans la quarantaine présentent des lésions précancéreuses au sein, une proportion beaucoup plus élevée dans l'incidence de ce cancer que l'incidence de ce cancer dans la population. Cela signifie donc que nous sommes tous à risque. Pourquoi alors certaines personnes développent-elles un cancer alors que d'autres ne l'auront jamais ? La recherche médicale montre clairement que c'est notre mode de vie qui détermine si ces tumeurs microscopiques demeureront sans danger ou si, au contraire, elles évolueront en tumeurs matures, affirme le docteur Béliveau. On peut comparer le cancer à une graine nuisible qui sommeille en chacun de nous, mais qui ne peut atteindre son plein potentiel que si elle trouve un terreau fertile qui lui apporte les éléments essentiels à sa croissance. Or, notre mode de vie moderne est bien souvent le terreau fertile dont a besoin le cancer pour s'éveiller. Certaines de nos habitudes de vie, telles qu'une mauvaise alimentation et la sédentarité, sont des facteurs qui peuvent donner un coup de pouce aux micro-tumeurs en créant des conditions d'inflammation chronique, favorisant la progression de ces cellules tumorales en véritable cancer, poursuit le docteur Béliveau. Cette influence néfaste du mode de vie sur la hausse spectaculaire de l'incidence de certains types de cancers est d'ailleurs flagrante chez les personnes d'origine asiatique qui immigrent en Occident. En effet, le cancer du sein peut devenir jusqu'à 4 fois plus fréquent chez les femmes originaires de Chine qui ont immigré en Amérique que chez celles qui sont restées dans leur pays d'origine, d'où l'intérêt de réévaluer notre mode de vie afin de favoriser les gestes menant à des habitudes plus saines, conclut le docteur Béliveau. Alors, quelques recommandations faciles à suivre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les principales recommandations pour prévenir le cancer sont simples et même assez faciles à suivre. Parmi les 10 recommandations, on trouve cesser de fumer. Le tabac est la principale cause du cancer du poumon. Au moins 10 autres types de cancers sont aussi associés au tabagisme, comme ceux du larynx, de l'œsophage, du pancréas, de la bouche et du col de l'utérus. Avoir une silhouette mince, il est recommandé de maintenir un indice de masse corporelle situé entre 21 et 23. On sait aujourd'hui que l'obésité est un facteur de risque majeur de cancer. Plusieurs études ont rapporté que l'augmentation de la masse corporelle est liée à la hausse significative de l'incidence de cette maladie et de la mortalité qui est associée, particulièrement dans le cas de cancer de l'œsophage, de l'utérus, du côlon, du sein et du rein. Il faut éviter les boissons gazeuses et réduire au minimum sa consommation d'aliments très riches en énergie et contenant de grandes quantités de sucre et de gras. Réduire sa consommation de viande rouge. On recommande de limiter sa consommation de bœuf, d'agneau et de porc à environ 500 grammes par semaine. En effet, les études révèlent que les personnes qui consomment beaucoup de ces produits voient leur risque d'être touchées par un cancer colorectal augmenter d'environ 30% par rapport aux gens qui en mangent peu. Faire de l'activité physique au moins 30 minutes par jour. Un grand nombre d'études ont clairement démontré que les personnes les plus actives physiquement voient le risque d'être touchées par plusieurs cancers considérablement réduit comparativement aux individus ayant un mode de vie sédentaire. On parle d'une réduction de 25% pour les cancers du côlon et du sein, ce qui n'est pas rien. Et enfin, ne pas recourir à des suppléments pour prévenir le cancer. Cela peut paraître étonnant, mais c'est scientifiquement prouvé. Les études indiquent clairement que l'action synergique obtenue par la combinaison d'aliments est de loin supérieure aux suppléments censés diminuer le risque de cancer, assure le docteur Béliveau. L'exception, la vitamine D. Pas moins de 15 types de cancers, dont ceux du côlon et du sein, ont été associés à une carence en vitamine D, souligne l'expert.
La nuit se fait longue, tu me fais pas rire. Mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu pars de trop près, je cherche la paix. Et ce bar de velours me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. En prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus. Je cherche une sortie à ce huis clos de saison. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. Prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus quand ce sera demain. Et c'est si dur de grandir, je sais. Même sans moi, tu connais la fin. Mais dans ces je ne te voudrais plus demain. C'est si dur de grandir, je sais, même sans moi. Et tu connais la fin.
Eh bien, nous venons d'entendre Cœur de pirate, danse et danse. Et moi, je vais vous parler d'une autre chanteuse. Elle pourrait bien être la nouvelle Madonna, 25 ans et 140 millions de vues sur YouTube. Kiza bouscule la danse mondiale avec la sortie de son premier album, Sound of a Woman. Voilà son portrait. Elle ne touche littéralement plus terre. Kiza a perdu toute notion du temps et du lieu depuis la sortie et le succès immédiat de Hideaway au mois d'avril. Où suis-je ? C'est la question que je me pose quasiment chaque matin, plaisante-t-elle dans un élan d'euphorie. En un morceau et un clip millimétré, cette Canadienne de 25 ans est devenue l'une des nouvelles divas de la dance mondiale, avec un goût très prononcé pour la house des années 90. Kiza est ce qu'on appelle une YouTube sensation, dont chaque morceau se répand sur le net à la vitesse d'un virus dès son apparition. La vidéo queer de Giant in My Heart mérite le clip. On connaissait jusqu'ici peu de choses d'elle, si ce n'est ce look de showgirl cool que la rue copie déjà. Chevelure rousse, banane en crête, jeans skinny et Reebok rouge. Kisa s'intéresse de près à la mode, ce que la maison Fendi a été la première à constater, et elle s'apprête à lancer sa propre ligne de vêtements, un peu barrée, à la Dali. Désormais installée à New York, la Canadienne, qui s'est d'abord fait connaître en écrivant pour d'autres, dont Rihanna, vient de sortir son premier album, Sound of a Woman, une histoire d'amour à rebondissement, inspirée de sa propre histoire. À 25 ans, elle a déjà eu 3 vies. La première a été dédiée à la danse classique, la deuxième à la mer, la troisième à la musique. J'ai commencé la danse à 3 ans. Tout s'est arrêté l'année de mes 15 ans à cause d'une blessure à la hanche. Ça a été terrible, mais j'adorais naviguer et je me suis trouvé une nouvelle passion, sur l'eau. J'ai participé à des courses, j'ai été enseignante et je suis entrée dans la Marine Royale canadienne. En parallèle, j'ai appris la guitare et commencé à écrire des chansons. Je ne pouvais plus m'arrêter de faire de la musique. À 18 ans, j'ai quitté la marine pour une école de musique. Et là, j'ai commencé à écrire pour des stars de l'industrie musicale. Et tout s'est enchaîné. C'est un record, 140 millions de vues. C'est un record pour une artiste totalement inconnue du grand public. Il y a encore 10 mois, la vidéo, réalisée avec 3 bouts de ficelle, a été dévoilée en février sur le net. Elle a permis à Kisa de se hisser à la première place du top anglais dès la sortie du titre. 90 minutes pour créer Hideaway. L'un des plus gros tubes de l'année a été mis en boîte en 1h30. Tout est parti de la mélodie imaginée en 10 minutes par Rami Samir Afouni, mon producteur. L'écriture m'a demandé 1 quart d'heure et l'enregistrement a duré moins 1 heure. Je n'aurais jamais imaginé que ce morceau ait autant de succès. Je n'avais même pas de maison de disques à cette époque. L'un de ces morceaux, dont le titre reste secret, devrait apparaître sur le prochain album de Rihanna. Jennifer Houston et le groupe Gorgon City interprètent son « Go All Night » et Kylie Minogue a enregistré « Elle » du Kisa. 13 chapitres sur « Sound of a Woman ». Son album « Sound of a Woman » pourrait se lire comme une nouvelle sentimentale avec une piste de danse en guise de décor. Les 13 titres parlent d'un homme dont je tombe amoureuse, des questions et des doutes qui finissent par surgir. Est-il celui qui me correspond? Pour le savoir, il faut écouter le disque jusqu'au dernier morceau, « Cut Me Loose », que j'ai mis 2 ans à achever. J'ai aussi un projet de film qui me tient à cœur. Ce sera un opéra. Encore faut-il que j'aie le temps de le créer. J'ai toujours eu des projets parallèles. 40 minutes et 35 secondes en une seule prise. Si le clip de Hideaway a si bien marché, c'est qu'il s'agit d'une performance impressionnante. La vidéo repose sur un seul et unique plan séquence où Kisa danse, chante, flirte dans les rues de Greenpoint à Brooklyn. On a répété plusieurs jours, mais la seconde prise fut la bonne. Le tournage a été un moment étrange, car je souffrais d'un mal de dos intense. J'ai su, plus tard, que j'avais une côte cassée. 1993, pour « What is Love ?». Sa reprise au piano du célèbre « What is Love ?» de Hideaway est un hommage feutré à l'Eurodance de 1993. Les années 90 coulent dans les veines de Kisa, élevées dans le culte de la soul et de la house de Chicago. Ma mère écoutait les grandes chanteuses de l'époque. Martha Wash, Whitney Houston. Je suis une fan inconditionnelle de Michael Jackson. Mes mélodies s'inspirent des années 90 avec une touche résolument moderne. Mais mon album ne se cantonne pas à un style. Il y a aussi le R&B et des élans hip-hop et de la soul plus classique. Un cœur à prendre pour l'instant. Son album ne parle que d'amour, mais en ce moment, Kisa a à vous faire cavalier seul. Je n'ai pas le temps, mais j'ai envie de retomber amoureuse et je suis très optimiste à ce sujet. Mes morceaux parlent de mes expériences personnelles. J'ai toujours fonctionné comme ça. Voilà, c'était le portrait de Kisa dans le L français du 14 novembre 2014 par Angèle Lepalec.
Eh bien, alors, côté mode, on a les conseils de style par Jean Héroldi. Le legging qui vous avantage. Eh oui, après avoir fait fureur dans les années 80 grâce aux films Grease et Flashdance, le legging a fait une courte apparition à l'automne 2006 pour ensuite être relégué aux oubliettes. Je dirais même que depuis que cette pièce a provoqué de nombreuses fautes de style. Si je vous en parle, c'est que cet automne, le legging effectue tout un retour. Voici donc mes conseils, comme Jean Héroldi le dit, pour le porter convenablement et éviter la catastrophe. Tout d'abord, mettons les choses au clair. Le legging n'est pas un pantalon ni un collant. C'est en fait un caleçon, d'abord conçu pour réchauffer les jambes. Donc, vous devinerez que vous ne pouvez pas le porter comme un pantalon avec une blouse courte, ni comme un collant avec des talons hauts. Il est impératif de respecter certaines règles pour apprivoiser cette pièce vedette de l'automne qui deviendra un essentiel de votre garde-robe. Ses meilleurs alliés. N'allez pas penser que le legging n'avantage que les grandes minces et qu'il ne peut être flatteur pour la silhouette. Au contraire, il peut s'adapter à la plupart des silhouettes. Il suffit de savoir comment le porter. Le legging doit accompagner discrètement une pièce déjà forte en style. Par exemple, il se porte avec une tunique, une longue blouse, une robe pull, un grand chandail ou encore avec une longue veste. Souvenez-vous que le haut doit absolument cacher les fesses. Et de grâce, oubliez les talons hauts. Le meilleur allié du legging demeure sans l'ombre d'un doute, les bottes hautes à talons plats.
La génération Cendrillon. Princesse ou punkette, mais seulement pour quelques heures. Les filles d'aujourd'hui jouent avec leur identité et se métamorphosent à l'envi. Par la grâce d'une injection de solution saline, elles gagnent quelques bonnets de décolleté pour la journée. À grand renfort de mèches réalisées au mascara capillaire, elles changent de couleur de cheveux comme on change de chaussettes. Ça, c'est difficile à dire. Elles sont les nouvelles Cendrillon, évoluent dans le règne de l'éphémère. Surtout, ne pas s'engager. Pas de transformation définitive ni de résolution au long cours. Le changement, c'est tout le temps. Et tous les secteurs de la vie sont touchés par cette frénésie de renouvellement. C'est par Nathalie D'Olivo et Émilie Rivenck dans le Elle français du 14 novembre 2014. En mode, on assiste à une multiplication des collections. Les magasins se réinventent en pop-up store, boutiques vouées à n'exister que quelques semaines. Dans les grandes enseignes, on renouvelle les portants à une cadence soutenue. L'objectif, ne pas laisser le temps à la cliente de s'ennuyer. Sus au sentiment de déjà-vu, la liste est quasi infinie. Vous fantasmez sur les sourcils de Cara Delevingne, un simple sticker peut faire le bro job. Des tatouages rock, pensez décalcomanie. Vous en avez marre de déjeuner à la cantine? Un food truck est peut-être garé exceptionnellement en bas de votre tour de bureau. Défoulez-vous le temps d'un week-end et organisez l'enterrement de vie de jeune fille de votre meilleure amie. Les bouteilles d'alcool valseront, mais le lundi, de retour au travail, tout sera oublié. Les petites filles de Cendrillon seraient-elles devenues accros à la citrouille magique? Les nouvelles technologies façonnent désormais notre rapport au temps, souligne Béatrice Copper-Royer, psychothérapeute. Avec elle a émergé la culture de l'instantané. Tout change très vite, il faut être alerte, réactif en permanence. Internet donne la possibilité de tout faire à la fois. On est sollicité sans arrêt, d'un onglet à l'autre, la concentration diminue. Difficile de cette manière de se projeter dans la durée. Voir, cela ne fait plus rêver. En témoigne l'agitation permanente qui règne sur Facebook, où chaque changement de photo de profil est un petit événement en soi qui suscite likes et commentaires. Sous-texte, dans la vie, je ne m'ennuie pas. Il se passe tout le temps quelque chose. La logique du zapping est maintenant complètement ancrée. Ce phénomène touche particulièrement les jeunes adultes car ils ont grandi en pleine explosion des médias et des réseaux sociaux. Cependant, cela fait déjà plus de 40 ans qu'on veut tout, tout de suite. Depuis mai 68, les aspirations à plus de liberté, ce désir n'a fait que s'amplifier. Pour assouvir cette soif de liberté, ce désir de changement, le temps mort est banni. Vive le speed, le saccadé, le slash, le saut de puce élevé au rang d'art. C'est vrai, mais si les 20-25 ans sont séduits par l'éphémère, c'est d'abord parce que la société leur interdit presque de s'établir, d'avoir un vrai boulot avant un âge de plus en plus avancé. C'est la génération stagiaire dont il s'agit ici. Pour faire face aux difficultés, elle joue le jeu autrement, appréciant pleinement le présent. On a beaucoup évoqué ces individus slasheurs qui cumulent plusieurs métiers. Personne ne s'étonne plus de rencontrer un graphiste, chanteur de rock, prof à mi-temps, blogueur, etc. Le zapping identitaire est de rigueur. L'homme post-moderne ne peut plus se réduire à une identité unidimensionnelle, le bon père de famille, la working girl, tout à la fois. Semble être le mantra de l'époque, un peu par la force des choses ou par refus du renoncement. Les Y veulent à tout prix fuir la routine, toute idée de définitif. Ils veulent vivre plusieurs vies, être curieux de tout et surtout ne passer à côté de rien. Pour autant, qu'y a-t-il vraiment derrière ces masques, ces perruques peroxydées, ces profils Facebook idéalisés et ces expériences trash le temps d'un week-end ? Que cachent ces multiples casquettes, ces costumes de super-héros à la carte? Il y a une peur de l'engagement évidente dans le travail ou la vie amoureuse. Est-ce le destin des enfants rois que ces jeunes adultes ont forcément été? Une certaine nostalgie de la liberté et de la toute-puissance de l'enfance semble ainsi s'exprimer. Même chez les plus âgés, ces problématiques renvoient à l'adolescence et à sa pulsionnalité qui veut qu'on entre en contact et jouissent du bien matériel dans l'immédiat. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de mal à nous atteler à une tâche continue qui demande trop d'investissement. Certes, la génération Cendrillon se construit funambule sur ses parenthèses enchantées, ses autres vies que la sienne. Mais ces tranches d'expérience semblent avoir une autre visée, mettre en scène un super soi, plus grand, libéré des contraintes du quotidien, du corpus nominatif, de l'entreprise ou de la vie de famille, de l'angoisse générée par la crise ou la précarité. Bref, de tout ce qui nous effraie ou nous asservit. En jouant sur plusieurs tableaux, le réel et le virtuel s'intercalant, on s'offre des soupapes, des moments de relâchement ou des égo-trips bienvenus. Comme une star, une vraie ou simplement celle que l'on est à son échelle dans son réseau social, on peut tous devenir quelqu'un d'autre. Telle une Pussy Riot cagoulée de fluo, une fémène torse nu et couronnée de fleurs, un Anonymous et son masque de porcelaine, une Lady Gaga méconnaissable d'une apparition à l'autre. Tous, une fois leur prestation finie, recouvreront leur identité. En tout cas, l'une de leurs identités multiples. Qu'on se rassure, cela n'empêche pas fatalement de se construire. Si l'on donne un sens cohérent à ces divers univers, cela peut fonctionner. Cendrillon ne finit-elle pas, grâce à sa métamorphose d'une nuit, à renouer avec elle-même et à trouver l'amour? Petit sujet beauté, vive la routine. C'est dans le Elle Québec de novembre 2014 et c'est par Angélique Martel. Alors, les différentes étapes à suivre. D'abord, le matin, le nettoyant. Doit-on se laver le visage à l'eau? Si on a la peau normale ou grasse, oui, mais on évite de le faire sous la douche, même si c'est plus rapide. La température de l'eau y est trop élevée, ce qui risque de fragiliser la peau en la desséchant et de dilater les petits vaisseaux sanguins responsables des rougeurs. Quant aux peaux sèches, elles tolèrent mal le calcaire contenu dans l'eau. Pour les nettoyer en douceur, on recourt plutôt aux formules sans rinçage de type eau micellaire ou lait démaquillant. Il y a ensuite le tonique. Ce produit est-il vraiment utile ? Le tonique a été conçu à l'époque où les nettoyants étaient si décapants qu'il fallait ensuite utiliser une lotion pour rétablir le pH cutané. Bien qu'il permette aussi de parfaire le nettoyage, son usage est aujourd'hui moins essentiel, sauf si on a la peau grasse. Les lotions toniques à base d'acide salicylique ou glycolique rendent les pores moins apparents et régulent la production de sébum. Le sérum, pour que le sérum soit vite absorbé, on l'applique sur la peau encore humide. À noter, en appuyant deux fois sur la pompe qui ferme la bouteille, on obtient assez de produit pour en enduire le visage et le cou. Et enfin, le soin du jour. On réchauffe le produit, crème, gel ou émulsion hydratante, entre les mains pour le fluidifier. Puis, on étale par effleurage ascendant. Ensuite, du bout des doigts, on tapote légèrement le visage, le cou et le décolleté afin de dynamiser la circulation sanguine et lymphatique. Alors ça, c'était les conseils pour le matin. Pour le soir, le démaquillage. Pour avoir une peau impeccable, on procède en deux temps. On dissout d'abord le mascara, l'eyeliner et les ombres à paupières avec un démaquillant pour les yeux. On nettoie ensuite tout le visage avec un démaquillant qu'on rince à l'eau. Le traitement, dans les produits destinés à corriger les défauts cutanés, rides, relâchement des tissus, acné, etc., les ingrédients actifs sont concentrés et souvent photosensibilisants. Mieux vaut les utiliser le soir pour éviter tout ennui ou inconfort. Le soin contour de l'œil. Les antirides et les anticernes gagnent à être intégrés à la routine du soir, car c'est à la fin de la journée que les pattes d'oie et les ombres sous les yeux sont les plus marquées. Et c'est à ce moment-là aussi que les formules agissent le plus efficacement. Cependant, c'est au réveil qu'on devrait appliquer les produits ciblant les poches sous les yeux, afin d'aider à aplanir ces bouffissures consécutives au sommeil. Et enfin, la crème de nuit. La crème est au visage ce que le vêtement est au corps, une protection. En soirée, on choisit des soins enveloppants, onctueux et réconfortants, comme un pyjama. Et il y a aussi, pour nous aider à nous y retrouver dans les soins à donner à notre peau, voilà l'échéancier d'une routine efficace. Une fois par semaine, un gommage et un masque. Bien humidifier la peau du visage avant d'effectuer le gommage afin de ne pas irriter l'épiderme. Le gommage permet de déloger les cellules mortes et de préparer la peau à recevoir le masque, qui pourra alors exercer efficacement son action, qui est à la fois purifiante, hydratante et apaisante. On se concentre sur la zone T, front, nez, menton, car l'épiderme y est plus huileux et engorgé que sur le reste du visage. Une fois par mois, un masque de visage. De plus en plus d'expériences en laboratoire montrent que le fait de masser le visage pendant qu'on applique une crème permet à celle-ci de mieux pénétrer dans la peau. La crème devient ainsi plus performante. Une fois par saison, un soin dans un institut de beauté. Le traitement facial qu'on reçoit dans un institut de beauté ne sert pas qu'à nettoyer la peau en profondeur. Les connaissances de l'esthéticienne, les produits qu'elle emploie et le protocole qu'elle suit permettent aussi de limiter les problèmes cutanés. Il est conseillé de prendre rendez-vous dans un institut quatre fois par an à l'intersaison. Et enfin, une fois par année, un examen chez le dermatologue. Si possible, on laisse un spécialiste examiner nos grains de beauté, diagnostiquer nos petits bobos, eczéma, rosacée, etc., et nous prescrire l'antidote le mieux adapté à l'état de notre peau. Et on prend tout de suite rendez-vous pour l'année prochaine, car les dermatologues ont un agenda très chargé.
Chaque jour, c'est la routine. Mets ton boulot, dodo. Boulot, mets trop, dodo. Dodo, mets trop, boulot. Mets trop, boulot, dodo. Dodo, mets trop, boulot. Boulot, mets trop, dodo. Mets ton boulot, dodo. Boulot, mets trop, dodo. Jomina, 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 yeah, 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 yeah.
C'était les frères Guisset avec la chanson Métro, Boulot, Dodo. Moi, j'ai 10 résolutions qu'on devrait tous prendre. Ça, c'est, on commence à préparer l'année 2015. Hein. On a tenu le coup, on n'a pas encore parlé de Noël. Bon, on verra ça semaine prochaine, mais cette année, pas encore. On tient bon. Voilà. Alors, c'est dans le coup de pouce de janvier 2015 et c'est par Claudine Saint-Germain. D'abord, passer moins de temps le nez sur un écran. C'est tellement facile de meubler un moment creux en ouvrant l'ordi ou le téléphone. Et c'est bien correct de temps en temps. Mais quand on arrête de le faire systématiquement, on se rend compte que déconnecter notre cerveau du réseau, ça fait beaucoup de bien. Cultiver la patience dans notre monde ultra rapide, c'est une vertu qui se perd. Pourtant, avoir de la patience fait toute la différence entre passer ses journées à chialer et être une personne souriante et attentive aux autres. On réfléchit à ce qui joue sur notre niveau de patience, sommeil, stress, air frais, et on prend les mesures qui s'imposent. Aiguiser son esprit critique. Un statut Facebook annonce que le rutabaga donne le cancer. Une blogueuse dit que la pâte à modeler cause du TDAH. Un chercheur clame qu'il a inventé une cure contre le stress. S'interroger 30 secondes sur la crédibilité de la nouvelle avant de la partager à tout vent permet de réduire le nombre de faussetés qui circulent dans le monde. Acheter plus d'expériences et moins de biens. Les chercheurs qui s'intéressent au bonheur sont unanimes. Dépenser pour vivre des expériences, comme voyager, souper avec des amis, prendre un cours de cuisine, rend plus heureux qu'acheter des biens. Principalement parce que le plaisir de posséder quelque chose s'émousse rapidement, alors que les expériences agréables se transforment en souvenirs qui nous feront sourire pour longtemps. Être plus gentil. Imaginez si chaque personne se donnait comme objectif d'être deux fois plus gentille avec les autres en 2015. On n'atteindrait peut-être pas la paix dans le monde instantanément, mais on s'en rapprocherait. Réfléchir à ce qu'on mange. Pourquoi ai-je toujours des rages de sucre à 15 heures? Qu'y a-t-il dans ces céréales supposément santé? Est-ce vraiment parce que j'ai faim que je mange une collation tous les soirs? Bien plus que la traditionnelle perdre 20 livres cette année, cette résolution pourrait nous mener à mieux manger et à être mieux dans notre corps. S'amuser davantage. Non. Pas jouer au Candy Crush, réfléchir à ce qui nous met réellement de bonne humeur et y consacrer davantage de temps. Patiner, jouer à des jeux de société, aller voir un spectacle d'humour, ce n'est pas du luxe, c'est pour notre santé mentale. Juger moins, compatir plus. Pourquoi cette personne s'est-elle lancée devant moi pour prendre le dernier siège libre dans l'autobus? Peut-être est-elle malade, peut-être a-t-elle eu une journée horrible et ne demande-t-elle qu'à s'asseoir en paix avant de retourner à la maison? Qui sait? De toute façon, même si aucune de ces réponses n'est bonne, on sera plus sereine que si on rumine tout le long du trajet contre l'égoïsme des gens. Gérer son énergie comme son argent. Comme pour les sous, on en a une réserve limitée, mais on la dépense parfois en futilité et on oublie de s'en garder pour les choses qui en valent vraiment la peine. On se donne sans compter au boulot et on est à plat le week-end venu. Peut-être est-il temps de revoir notre budget énergie. Et enfin, être plus indulgente envers soi-même. En voilà une difficile, mais peut-être la plus importante qu'on peut prendre, pour soi et pour ceux qui nous entourent. Car quand on est indulgente envers soi-même, on l'est aussi davantage pour les autres. Un mantra à se répéter quand on a l'impression de n'être à la hauteur de rien. Je ne peux rien faire de plus que mon maudit possible. Essayez-le et sentez la pression baisser. Voilà pour l'année 2015. Alors, c'est Janine qui va nous présenter, nous donner quelques raisons pour sortir plus souvent avec nos copines.
Oui, se retrouver avec les copines, comme on sait, c'est toujours important.
Ben oui.
Malgré notre temps très chargé. Alors oui, je vais vous sortir des bonnes raisons de sortir avec les copines. Oubliez nos tracas. Les incompétents du bureau, les maladies infantiles en série, le bordel autogénératif de la maison. On met de côté tous nos soucis, du moins pour quelques heures.
Et quand on revient de notre sortie, étonnamment, nos problèmes semblent plus remédiables, voire carrément anodins. Pourquoi pas se retrouver? À force de jouer les employés modèles et les supermamans, on finit par oublier celles qui se cachent tout au fond de nous. Avec nos copines, on laisse tomber les masques et les indicateurs de performance pour se montrer tel qu'on est vraiment. Voyager dans le temps, on a la chance d'avoir des amis de longue date. En se remémorant nos bons souvenirs, on replonge à l'époque de notre rencontre, quand les changements de couche et les responsabilités professionnelles étaient encore loin. Lâcher son fou. Impossible de dénicher de meilleurs complices pour danser sur un haut-parleur ou pour s'époumoner sur une chanson quétaine au karaoké. Profiter d'une écoute attentive. Avec les copines, on peut parler longuement de nos états d'âme sans avoir l'impression que le match de hockey diffusé à la télé mine la concentration de notre interlocuteur au bout de 30 secondes. Trouver un soutien inconditionnel, même si elles ne sont pas toujours d'accord avec nous. Jamais elles ne jugent nos gestes et nos décisions. Une pour toutes et toutes pour une. Obtenir un avis externe. À la fois proche de nous et loin de notre quotidien, nos amis peuvent nous sembler entrevoir de nouvelles perspectives auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Se comparer pour mieux se consoler. En effet, c'est souvent grâce à nos copines qu'on réalise que, finalement, on a toutes les mêmes tracas, qu'on n'est pas toutes seules aussi qu'on n'est pas aussi seules qu'on le croyait. Problèmes amoureux, financiers, familiaux, il nous arrive toutes d'en faire l'expérience un jour ou l'autre. Mieux se comprendre, nos qualités, nos points faibles, nos mimiques. Nos amis nous connaissent parfois mieux que nous-mêmes. Elles peuvent donc détecter certaines choses en amont. Un malaise au travail, une attirance refoulée pour notre professeur de tennis, une force insoupçonnée. Rire à en avoir mal aux joues. Doit-on vraiment en dire plus?
Alors, quelques conseils pour porter des vêtements colorés, parce que la grisaille qui arrive, il faut mettre un peu de couleur. Premièrement, pour un résultat équilibré et élégant, on peut porter les couleurs plus vives avec des tons de base neutres comme le marine et le noir. Plusieurs agencements sont possibles, comme bleu royal avec gris, marine avec jaune ou noir avec fuchsia, par exemple. Les couleurs riches sont plus élégantes et moins criantes que les couleurs vives. C'est donc un bon point de départ. Le vert émeraude, le sarcel, le framboise et le bourgogne sont de bonnes options. On peut s'inspirer de la palette des pierres précieuses pour trouver de nouvelles teintes. Si on assume moins bien les couleurs, on peut commencer par les porter sur le bas du corps. Une jupe ou un pantalon coloré avec un haut blanc peut s'avérer un bon compromis pour celles qui ne sont pas habituées à se couvrir de couleurs. Et pas question de changer notre garde-robe au complet du jour au lendemain. On commence par introduire quelques morceaux colorés dans notre routine vestimentaire pour éviter d'acheter des vêtements qu'on ne portera pas. On peut aussi débuter avec des accessoires qui sont plus discrets et plus faciles à agencer. C'est idéal pour une transition en douceur. Eh bien, ça y est, notre émission est déjà terminée. Nous, on n'a pas vu le temps passer, n'est-ce pas, Janine?
Non, ça a été vite, vite.
Voilà,
ça
va trop vite.
Ouais.
Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à Jean-Sébastien La Liberté pour ses excellents choix musicaux, sa mise en onde
Et si vous avez des commentaires, vous pouvez nous laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220, ou sur notre site canalm.org. On se retrouve la semaine prochaine, on parlera peut-être un petit peu de Noël. On commencera peut-être, voilà.
Ah, il faut y penser.
Voilà, à la semaine prochaine.
Au revoir.